Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Agenda. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, candidat à la chefferie, entrepreneur, Laurent Vézina. Bonjour, M. Vézina. C'est un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui.
Bonjour, Samuel. Bonjour, Jonathan.
Bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme.
Oui, oui, absolument.
Donc, faut être en forme quand on fait une course à la chefferie comme ça.
Comme de fait. Juste pour les auditeurs, les mettre un peu dans le contexte du moment où on enregistre cette entrevue, on est le 4 juin. Alors, une journée avant le redéclenchement, si on peut le dire ainsi, de la course, comment vous vous sentez à l'heure actuelle, M. Vézina? C'est quoi vos ressentis?
Bien, j'ai hâte que ça recommence.
Oui.
Évidemment, il y a toujours une forme de nervosité avant n'importe quelle course. Voilà. Je pense que c'est une nervosité assez saine. Je me sens comme à l'époque de l'université. C'est une bonne nervosité. Je me sens prêt pour l'examen. J'ai bien étudié.
Est-ce que c'est une course que vous trouvez, c'est peut-être la course la plus importante? Est-ce que c'est la course la plus importante de votre vie ou vous avez déjà traversé des choses plus compliquées que ça? Vous avez quand même un parcours entrepreneurial assez chargé.
Je sais pas si je voudrais la qualifier de plus ou moins que d'autres. Vous savez, quand on est dans un défi, on est dans un défi et puis c'est celui-là qui nous occupe. Il est souvent préférable de ne pas trop prendre de défis à la fois, à moins de manquer d'humilité. C'est une course qui est importante, difficile. Difficile parce qu'on n'a pas un accès clair aux membres et donc notre capacité à expliquer nos plans, nos projets, notre programme pour que les membres nous envoient en débat, cette capacité-là est très amoindrie. Donc, c'est une course qui est exigeante au point de vue de la créativité pour essayer de passer au débat pour l'intérêt des membres, évidemment. Envoyer des candidats dans les débats par les membres, c'est pas voter un nouveau chef, c'est tout simplement étoffer l'offre des idées que les membres doivent se donner, je pense. Donc, j'espère que les membres du Parti québécois vont être généreux envers eux-mêmes. Ils ont beaucoup de pouvoir au bout du stylo, signer tous les aspirants et envoyer tous les aspirants au débat, 5 aspirants et une aspirante. On voit que d'ailleurs dans le Parti démocrate aux États-Unis ou le parti dans la politique américaine en général, ils commencent des fois des courses à la chefferie à 25, donc ils finissent à 2. Hein? Donc les membres disposent à la fin des projets, des programmes et de la personne qui leur semble la plus pertinente. Mais il faut commencer large.
C'est... Oui, effectivement. Avec la pandémie, par contre, est-ce que vous trouvez, trouvez-vous que le parti a un petit peu mis sa patte un petit peu trop lourdement pour réduire l'offre? 2000 signatures, quand on ne peut pas aller voir les gens directement, est-ce que vous voyez ça un petit peu comme une façon indirecte pour le parti de juste éliminer déjà les outsiders, entre parenthèses, pour aller chercher vraiment tout de suite la crème de la crème pour aller faire des débats très centrés sur les potentiels dirigeants?
Mais je ne sais pas s'il y avait une velléité en ce sens-là. J'espère que non. J'espère que non. Maintenant, quand vous dites la crème de la crème, c'est comme si on peut se sentir comme si on était un coureur de 100 mètres. Et il faut faire, pour la qualif, pour faire en bas de 11 secondes pour accéder aux rondes finales. Et pour ça, il faut s'entraîner dur, puis il faut devenir rapide sur les 333 premiers pieds. Alors, on s'entraîne physiquement pour atteindre ça. Là, j'ai l'impression qu'on est des fois, on peut avoir cette impression-là, qu'on est des coureurs de 100 mètres, mais qu'on nous demande, avant d'aller à la finale, de construire une maison. On n'est pas bricoleur, Donc, en quoi est-ce que construire une maison va faire de nous un meilleur chef pour le Parti québécois? Donc, je ne sais pas si la difficulté est orientée dans le sens de amener au débat les meilleurs programmes. Lorsqu'on demande aux gens à ce stade-ci, je ne vois pas comment les membres peuvent s'imprégner des idées, des programmes et des projets des aspirants pour justifier que certains sont meilleurs
que d'autres.
Ils ont été très peu accessibles.
Effectivement. Non, mais vous le dites bien, il y a eu un grand manque de communication depuis le confinement. Je suis complètement d'accord avec vous quand vous dites qu'on doit mettre notre côté peut-être partisan pour un candidat de côté, puis peut-être regarder ce que tout le monde a à proposer et les mettre d'avant les six candidats, cinq hommes et une femme, comme vous l'avez dit. C'est complètement vrai. Si vous me le permettez, M. Vizina, j'aimerais vous poser une question concernant notre chère capitale nationale. Vous qui y vivez, hein, comme moi et Sam d'ailleurs, j'aimerais savoir votre vision à vous personnellement de la ville de Québec comme étant la capitale d'un pays souverain. C'est quoi l'avantage pour la ville de Québec qui a une tendance quand même à voter contre le oui et relativement contre le bloc au niveau fédéral, pour le mentionner. Alors, qu'est-ce que vous diriez aux citoyens de la ville de Québec pour les inciter à voter pour le Parti québécois, pour vous, légitimement, et dans la mesure du possible, oui, à un futur référendum?
Mais d'abord, la ville de Québec, c'est, bon, c'est une opinion personnelle. Je vous la donne. Moi, je pense que c'est la plus belle ville d'Amérique du Nord. Donc, j'en ai fait quelques-unes. Moi, je pense que c'est la plus belle. Maintenant, ça justifie pas rien d'autre que c'est une ville qui est extraordinaire. Ça, c'est la ville en tant que telle. Les gens que je rencontre dans la ville de Québec, pour moi, sont des vrais Québécois extraordinaires, des gens, des vrais Nordiques, capables d'affronter le froid, la tempête. On voit, quand on est dans la ville de Québec en janvier, on voit pourquoi 400 ans plus tard, Jonathan, Samuel sont encore ici, droit dans leurs bottes. C'est un climat qui est rigoureux, qui est dur, et les gens sont là, droit, ils l'affrontent et ils ont la bonne humeur. Vraiment, les gens de Québec, moi, je leur lève mon chapeau, ils sont les plus beaux représentants du grand peuple ordinaire qu'on est. Maintenant, au dernier référendum en 1995, vous savez, les faits sont têtus. Les gens de la grande région de la capitale nationale ont quand même voté oui à plus de 50 %. Alors, c'est un score qui les honore. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on a des fois l'impression que les gens de la ville de Québec ne sont pas directement, officiellement, vigoureusement pour la souveraineté du Québec d'un point de vue constatable dans l'espace public? Moi, je pense que dans la grande région de la capitale nationale, il y a des opinions qui sont partagées. Il y a une vraie démocratie. Je pense que les gens demandent à se faire expliquer concrètement qu'est-ce que ce projet-là va nous apporter d'une manière tangible, comestible, mesurable et observable. Et ça n'a pas toujours été fait comme ça devrait l'être. Alors, je me sens comme les gens de Québec. Si tu veux me convaincre de quelque chose, ben viens me voir, mais apporte-moi quelque chose de tangible, quelque chose qui peut être comestible pour mon esprit. T'sais. Puis si tu ne fais pas ça, ben ça va être plus compliqué. Et je pense que c'est le défi qu'on a avec les gens de la grande région de la capitale nationale. Il faut pas niaiser avec le POC, comme on dit. Et il faut pouvoir dire, écoutez, 1759, la conquête, donc ça s'est fait ici, dans la cour, n'est-ce pas, tout près, et 2020, ça c'est 250 ans. Après 250 ans, les Québécois sont moins scolarisés que la moyenne canadienne. Les Québécois sont moins riches que la moyenne canadienne. Les exportations québécoises s'exportent moins que la moyenne canadienne. Le taux de brevets internationaux des Québécois est inférieur à la moyenne. Mais on a besoin de combien d'années? Je veux dire, on va se mesurer pendant encore 10 000 ans avant de dire, je pense qu'on va s'organiser nous-mêmes. L'espace canadien ne convient pas à notre façon d'être. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de plus validé dans l'histoire du monde? C'est que le vaincu prend rarement le dessus sur le vainqueur. Et donc, la situation qu'on mesure et qu'on observe à tous les jours dans la société québécoise n'est exclusivement que très fidèlement le reflet du vaincu par rapport au vainqueur. Et puis, je veux dire, en même qu'on voudrait dire, oui, mais c'est ça, ça s'est fait il y a 250 ans, moi, je suis d'accord, mais les dinosaures, ils ont existé, tu sais. Ça fait 65 millions d'années. On en parle, on fait des films sur les dinosaures comme si c'était nos amis au parc. Et ça, c'est quelque chose d'absolument tangible. Maintenant, quand moi, je suis à la table avec mon père, il y a moi puis il y a mon fils, mais il y a trois générations, là. Mais la conquête, c'est 11 générations. C'est vraiment pas loin. Alors, c'est tout près, cette défaite-là. Et moi, j'ai confiance que 1759 à 2024, ça aura été un interstice où on a été pris ici, sur les plaines d'Abraham, par la ruse et par la force. Et tout ce que tu prends par la ruse et par la force, tu dois le rendre. En toute honnêteté, tu dois le rendre.
Non, certainement, mais pour les habitants de la capitale nationale, ce qui me reste, ce qui me surprend toujours, c'est à mon sens, et vous pourrez me corriger si je me trompe, une capitale nationale, comme on l'a actuellement, c'est une capitale provinciale. On n'a pas tous les ambassades, on n'a pas tous les avantages, on n'a pas le levier diplomatique pour la ville de Québec que si on est un pays. Et là, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. À quel point ça aiderait la ville d'être la capitale d'un pays et non plus d'une province? On serait quand même le seul pays francophone. Ça a son attrait autant diplomatiquement que de façon touristique. Ça a son attrait de plein de façons. Mais pour Québec, ça signifie quoi d'être la capitale d'un pays? Et concrètement, tu sais, comme vous dites, il ne faut pas niaiser avec le POC, il faut expliquer. Ben, pour les gens de Québec, concrètement, c'est quoi le changement d'être la capitale d'une province et d'être la capitale d'un pays?
Ben, écoute, Samuel, tu l'as parfaitement décrit. Donc, c'est certain que pour implicitement les gens de la capitale nationale, que le Québec devienne un pays, il y a des avantages économiques, diplomatiques, internationaux, mondiaux qui sont indéniables. C'est évident. Maintenant, moi, je pense que ça va plus loin que ça. Québec a une histoire et notre grand peuple ordinaire en a une aussi. Si le Québec devenait souverain, c'est certain que la ville de Québec monterait en puissance et pas qu'en puissance diplomatique et économique, mais également, elle viendrait se donner un vrai profil compétiteur en poids et en influence à côté de la capitale économique du Québec qui est Montréal. Et les deux serait mieux à même de s'alimenter et de s'influencer et de se pousser en avant.
Une sorte d'homogénéité du territoire, au final.
Ah, complètement. Puis, en plus, voilà, j'en profite, là, mais en plus, une forme de justice. Parce que il faut, bon, c'est ma vision du Québec, dans un Québec souverain, il y a 17 régions administratives, comme vous le savez très bien, Jonathan et Samuel. Et c'est, je vois le Québec souverain avec 17 régions administratives avec de réels pouvoirs. Donc ça ne veut pas dire faire semblant. Moi, je ne parle pas la langue de bois, donc autorité sur l'éducation, autorité sur le développement économique, autorité sur la culture régionale, autorité sur la sécurité, la police régionale, de vraies capacités. Alors, fini.
Un vrai gouvernement de proximité, dans le fond.
Ah ben complètement. Avec des vraies institutions, des vrais budgets, des vraies autorités sur lesquelles le Québec pays ne peut pas empiéter. Donc, Thetford Mines qui crève la gueule ouverte parce qu'on a déclaré que l'amiante, c'était plus bon. Eh bien, quand une ville comme Thetford Mines se fait jeter comme ça par terre, en plus, il faut qu'elle se retourne parce qu'elle n'a pas d'institution locale, elle n'a pas de budget dans la région, il n'y a pas de capacité, il n'y a pas d'expertise, il n'y a pas de pouvoir. Alors, non seulement Thetford Mines est par terre, mais en plus, il faut qu'elle aille quémander à Québec, quémander à Ottawa des argents, des subventions, de l'aide. Alors ça, c'est une honte. Et ça ne doit plus se produire jamais. Dans un Québec pays, les régions vont avoir la capacité de se remettre droit dans leurs bottes avec leurs propres moyens, leurs propres expertises. Et ça, c'est fondamental.
Et tant qu'à être dans les questions d'échange et tout ça, je me permettrais une question qui va un peu qui est un peu dans votre cadre d'études et de travail, si je peux le dire ainsi. Au niveau des échanges internationaux, comment voyez-vous les futurs traités de libre-échange? Est-ce que ça va être plus multilatéral, bilatéral? Comment vous le voyez? Comment vous le décririez?
Même que j'ajouterais une notion, parce que c'est plus mon domaine, puis c'est moi qui avais fait la question à la base. La vision d'un échange international avec un Québec indépendant, est-ce qu'on tend plus vers la libéralisation ou est-ce qu'on a vraiment nos vaches sacrées, on a l'agriculture, des choses comme ça, où on est vraiment inflexible, on ne céderont pas sur ces choses-là? Alors qu'en ce moment, Ottawa peut facilement nous forcer la main, comme on l'a vu avec la gestion de l'offre et constamment empiéter. C'est plusieurs questions comme ça qui se posent.
Bien, d'abord, il est impossible. Il n'y a pas de peuple dans l'histoire, mais dans l'histoire récente, là, 7000 ans, c'est-à-dire à peu près 5000 ans d'Égypte ancienne à Jésus-Christ, plus 2000, ça fait 7000. Donc, la civilisation moderne, c'est 7000 ans. Ça fait 1000 ans qu'on vit avec le couple économie de marché et démocratie, n'est-ce pas? À partir de l'an 1000, on a vu la féodalité qui s'est fait jeter par terre. On est passé d'une économie qui était « t'habites sur mon terrain, tu me payes une redevance juste pour habiter là », donc la féodalité, et puis on est passé vers l'an 1000 à donc l'économie de marché et la démocratie, graduellement, des balbutiements jusqu'à aujourd'hui. Donc, on vit avec ce couple-là et on ne va pas arrêter de vivre avec ce couple-là demain. Et demain, il y aura 8 milliards d'habitants, 9, il y aura 10 milliards d'habitants sous peu sur la Terre. Il va falloir nourrir ces gens-là. Alors, ce que je veux dire par là, c'est les modèles économiques classiques et traditionnels vont demeurer. Oui, il y a la 4G, la 5G, oui, il y a les économies de l'intelligence, les sciences de la vie, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'espace devant nous pour les économies qui sont plus classiques. Alors, nourrir les gens, c'est l'agriculture, les loger, c'est la construction, n'est-ce pas? Et puis, c'est les organiser, c'est les matières premières. Voilà. Alors ça va. Et nous, au Québec, on a toutes les ressources pour voir à la partie traditionnelle et classique économique. Donc, pour nous, l'avenir, il est très bien engagé avec les ressources que l'on a. Maintenant, il est impossible pour un peuple de passer à l'étape supérieure si ce peuple-là ne prend pas conscience du danger qui est devant lui. Il n'y a pas de peuples qui sont demeurés des peuples s'ils n'ont pas pris conscience que la fin est imminente. Et pour nous, c'est 15 ans encore. Donc, on va devenir totalement insignifiant au Canada et au Québec avant 2050, au Canada avant 2035, n'est-ce pas? On va passer ici rapidement en dessous de 70 % de la population québécoise, n'en parlons pas. Donc, il y a pour nous une urgence de retomber sur nos pattes en tant que peuple est de normaliser le pays. Quand on normalise un pays, on négocie nos propres accords commerciaux. Aujourd'hui, le premier ministre Legault se retrouve en Californie au mois de décembre dernier, puis on lui dit, Radio-Canada l'appelle, et il demande à François Legault, qu'est-ce que vous pensez de l'aluminium qui est maintenant exposé au dumping chinois par le Mexique? Et François Legault répond candidement, ce qui est dramatique, ben, je ne sais pas, je n'ai pas vu le texte. Est-ce que vous imaginez un chef de pays qui non seulement n'a pas négocié, mais il y a un impact qui est connu des journalistes, puis lui, il n'a pas vu le texte. Et il rajoute, ce qui est pire que ça, il dit « J'ai téléphoné à Ottawa et on a dit qu'on me l'enverrait demain. » Alors, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors, est-ce que c'est ça le nationalisme de François Legault? Alors, ça, si c'est ça, c'est un drame consommé. Donc, quand nous allons devenir un pays normalisé, on va être à la table des négociations. Il n'y a pas de salut pour les gens qui sont dans les corridors. Si vous n'êtes pas dans la salle, à table, avec une autorité formelle et une identité qui vous appartient, vous allez être laissé pour compte. Alors, depuis l'an 2000, la balance commerciale du Québec, importation, exportation, est déficitaire. 1 milliard, 3 milliards, 7 milliards. 15 milliards, 20 milliards de... Écoutez, ça suffit, là. C'est quand même étonnant qu'on puisse pas s'entendre sur le fait que si tu n'es pas à la table des négociations, tu es perdant. Et on le constate à tous les jours. On importe davantage qu'on exporte. Et si vous regardez l'Ontario depuis l'an 2000 et vous regardez la courbe d'exportation de l'Ontario, elle est en constante amélioration. Et la nôtre est en constante dépréciation. Et on a toujours des fédéralistes pour venir nous expliquer le pourquoi du comment, que ça pourrait être l'intervention divine, ou il n'y a rien de divin là-dedans. Tu n'es pas à la table des négociations, tu es le laissé pour compte dans le Canada, tu as été le vaincu, on négocie notre automobile, on négocie notre pétrole, on négocie nos trucs, on négocie nos accords avec la Chine, puis si on a de la place pour ton fromage, pour ton bois d'œuvre et pour ton aluminium, eh bien, éventuellement, on te fera signe. C'est impossible pour le Québec d'accéder à la vraie modernité et d'ici 2100 si on ne devient pas un pays. On est condamné si on n'est pas à la table des négociations. Alors, je veux revenir sur un point que vous avez tous les deux très bien souligné. Est-ce qu'on va être intransigeant sur certaines choses? Alors, en Europe, quand vous essayez de leur passer des vaches Monsanto, eh bien, ils brûlent les Champs-Élysées. Les agriculteurs en Europe, vous n'allez pas les entourlouper avec vos produits douteux. N'est-ce pas? L'agriculture en Europe, c'est fondamental et vous allez leur passer sur le corps pour faire quoi que ce soit. Alors moi, qui ai des gens ici de l'UPA, des agriculteurs, des fermiers, des gens des produits de la terre qui se lèvent et qui disent « Attention, il n'est pas question que vous laissiez aller notre gestion de l'offre, nos fromages, notre lait, etc. » Ben moi, ça me convient. Parce que ce sont des forces qui nous aident à négocier. Et d'ailleurs, il est impossible, le dixième producteur d'œufs aux États-Unis, il jette à tous les mois la production équivalente de ce qu'on consomme en œufs au Québec. Alors, lui, ce qu'il jette, il peut nous le domper à un sou l'œuf. Ça va juste lui faire plaisir, puis ça va payer ses cartons. Et nous, on va crever la gueule ouverte. Alors, comment est-ce qu'on peut penser une seule seconde qu'on peut laisser la gestion de l'offre être attaquée ici? Il est impossible pour nous de compétitionner dans certains domaines. Certains domaines sont fondamentalement axés sur les volumes. Alors, ce n'est pas le propre de notre grand peuple qui est moins populeux que la grande nation américaine qui est à côté. Alors ça, il faut en être conscient. Alors, négocier nos accords avec l'Europe. Il y a en ce moment au Canada une centaine d'accords commerciaux que le Canada gère et qui nous impliquent, nous, au Québec, que ce soit financier, culturel, économique, et j'en passe et j'en oublie. D'ici 2100, il va y avoir 300 à 500 rondes de négociations dans lesquelles le Québec va être dans le corridor. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer de quelle manière est-ce que ça va être payant pour moi d'être dans le corridor pour les 500 prochaines négociations? Ça ne fait pas de sens. Les Québécois vont comprendre ça. Je suis convaincu que le Parti québécois peut remporter l'élection de 2022 en expliquant clairement aux gens qu'il n'y a aucun salut à ne pas négocier tes choses, à ne pas contrôler ton immigration, à ne pas contrôler tes frontières, puis à ne pas prendre des décisions qui sont importantes pour toi. Je vous donne un exemple. On a acheté, en 1960, Hydro-Québec. Hein, on l'a fait. On a acheté les barrages hydroélectriques privés détenus à 95 % par des intérêts anglophones. Alors, on a payé 75 millions de dollars, à peu près, 75-100 millions. Aujourd'hui, Hydro-Québec, ça vaut 75 milliards. Alors, moi, je demande combien ça vaut chaque dollar que le Canada ne met pas chez nous puis qu'il met en Ontario pour développer l'industrie de l'automobile. Combien ça vaut 50 ans après? Quel impact ça a? Le dollar qui te fructifie ton économie, s'attarde à ta richesse, qui travaille pour toi, ça vaut 1 dollar. 75 millions en 1960, ça vaut 75 milliards aujourd'hui. Alors, imaginons que depuis 60 ans, on perd tout cet argent-là. Si on avait mis la même somme dans d'autres industries connexes pour les développer au Québec, pensons juste au bois d'œuvre à la Mauricie, qui est une région dévastée. Allez sur le logiciel de Remax, faites maison à vendre au Canada et trouvez les moins chers. Vous allez sortir Shawinigan, Grand-Mère, Trois-Rivières, Thetford Mines et 2-3 villes au Nouveau-Brunswick. Mais pourquoi ça? Mais c'est ça. 250 ans d'être vaincu, ça fait que 250 ans après, tu es moins scolarisé, tes maisons valent moins cher, tu t'enrichis moins. Puis quand tu t'enrichis moins, tu passes plus de temps à essayer de te nourrir qu'à essayer de comprendre le monde. Puis moins tu comprends le monde, bien moins bon tu compétitionnes avec les autres. Alors, l'enrichissement, il doit être collectif. Il ne doit pas servir des intérêts personnels, exclusivement corporatifs. La seule raison pour laquelle on veut générer et on doit générer de la richesse au Québec, c'est pour la redistribuer. Il faut atténuer les différences entre les moins bons à l'école puis les meilleurs à l'école. Il faut atténuer les différences entre les moins riches puis les plus riches. Il faut faire un groupe homogène qui avance au diapason en même temps, avec le même accès à l'intelligence, le même accès à la richesse.
Bien, vous l'avez très bien dit et je me permettrai de vous poser la prochaine question toujours en lien avec ce que vous dites. Sur la perspective purement éducative, quelle réforme selon vous pourrait mettre, exemple, fin à notre système à deux vitesses, pourrait justement permettre une homogénéisation de la population en fonction de leurs besoins, évidemment, en fonction des régions, comme vous l'avez dit plus tôt. Quelle est la réforme pour vous en éducation? La réforme.
Bien, d'abord, la loi 101 doit s'appliquer au cégep. Deuxièmement, tous les nouveaux arrivants au Québec, tous, ils doivent être tenus de faire un parcours scolaire francophone intégral jusqu'au bac. On ne les laisse pas tomber au secondaire 5. Alors, on vous fait le privilège de vous accueillir dans l'espace ici qu'on a construit depuis 400 ans. Alors, on est un peuple qui a l'avenir vacillant d'un point de vue culturel parce qu'on est assiégé et que c'est normal. Et donc, les gens qu'on accueille ici doivent engrossir notre capacité à nous épanouir dans le temps. Et donc, les nouveaux arrivants ont droit au grand parcours francophone obligatoire. Maintenant, il y a du décrochage au Québec d'une manière inacceptable. Il faut cesser le décrochage. L'école doit se réinventer pour assurer que les moins bons aient moins d'écart avec les meilleurs. Donc, il faut que les classes soient diminuées en nombre. Au primaire, il faut aller à 15. Au secondaire, il faut aller à 20 élèves par classe. On est à 20 et 25. Il faut descendre du tiers absolument et rapidement. Le travail des profs, moi, j'ai fait des présentations dans des écoles. Le travail des profs, c'est une vocation. Il faut être conscient de ça. Et en plus, tout peuple s'épanouit par ses intelligences. Et les intelligences, ça commence très tôt. Donc, très tôt, il faut leur offrir un très, très bon système éducatif aux jeunes. Et il faut qu'on soit meilleur. Donc, plus de décrochage, parcours francophone, baisse des élèves par classe. Évidemment, il faut... Écoutez, un professeur qui, aujourd'hui, commence à 42, 43 000 $ par année et éventuellement peut se rendre à 80 dans 30 ans. On est d'accord? Si vous êtes un prof vous avez et que vous êtes admis en tant que fonctionnaire de l'État, vous avez une sécurité d'emploi. On est d'accord. C'est un avantage. Personne ne met ça en question, mais c'est un travail extraordinaire d'enseigner. Et il faut comprendre qu'un professeur à l'école, il doit être capable d'être rémunéré avec la fierté qu'on porte dans le poste. Et ça, il faut bonifier les conditions d'emploi de nos professeurs et leur donner des outils pour qu'ils fassent un travail meilleur. Et il ne faut pas avoir peur de tout remettre en question. Pour arriver à avoir... Et évidemment, vous m'avez ouvert la porte, je la prends. Le financement des écoles privées, ça doit cesser. Il faut laisser le temps aux écoles privées de se remettre sur leurs pattes. Donc, on ne va pas assassiner les écoles privées demain matin. Mais le message doit être clair. Il faut que l'instruction publique au Québec soit de la meilleure qualité possible comparée aux pays les plus avancés. Il faut réinvestir beaucoup d'argent dans le système de santé. Et pas à coût de 100 puis de 150 millions, mais à coût de milliards. Depuis 25 ans, l'Ontario nous a doublé sur les investissements dans l'école. Et aujourd'hui, on regarde en Ontario, ils ont deux fois plus de brevets que nous par habitant. Alors, ceci explique cela. Et quand tu as des brevets, qu'est-ce qui se passe? Bien, tu crées des innovations. Et quand tes innovations sont attrayantes, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent les acheter chez vous. Et quand ils viennent les acheter chez vous, vous faites un enrichissement collectif. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ça ne doit pas se passer autrement. Donc, il y a la fin du financement des écoles privées sur 10 ans. Il y aura encore des écoles privées au Québec. Les gens qui voudront payer pour envoyer leurs enfants dans une école privée pourront absolument le faire. Pour celles qui se sentiront en mesure d'être une école exempte de subventions de l'État.
Mais j'aimerais soulever une question par rapport à ça, justement. Je m'excuse, j'aimerais soulever une question par rapport à ça, justement, à la fin des subventions aux écoles privées. C'est un débat qui avait eu lieu au CNJPQ, au Conseil national jeune du PQ. Et il y avait un argument qui disait, si on enlève les subventions aux écoles privées, est-ce qu'on risque pas de créer une certaine élite intellectuelle que seuls les super riches vont pouvoir se financer, alors qu'à l'heure actuelle, la classe moyenne, la haute classe moyenne, peut envoyer ses enfants dans ces écoles-là et donc rivaliser avec cette élite intellectuelle-là? Qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là?
Moi, je pense que... Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis moi-même issu de l'enseignement privé à Montréal et je fais le tour des gens que je connais. J'ai un ami qui est issu complètement de l'instruction publique et qui a fini doyen de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Alors, c'est un parcours pas mal. Donc,
pour vous, l'argument de faire des élites intellectuelles, c'est un faux débat.
Ça ne tient pas. Moi, je pense qu'il faut que l'instruction publique soit... L'éducation, c'est comme la santé. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'offre par gentillesse. C'est un droit humain de base. Et il faut s'assurer que les Québécoises et les Québécois aient accès à une instruction publique de la meilleure qualité possible. Et ça prend nos deniers pour donner au plus grand nombre, la meilleure instruction de qualité. Maintenant, on n'empêchera jamais des gens de se donner des accès à des instructions hors normes. Grand bien leur en fasse. Il faut viser la grande majorité, le grand groupe, et leur donner accès aux meilleures conditions possibles. Si, comme dans toute société, des gens arrivent à déclarer que moi, je vais envoyer mon enfant dans une école privée qui coûte 20 000 $ par année. Je pense que ce sera mieux pour ça. Eh bien, grand bien leur en fasse, il y en aura tout. Il y a de la place pour ça. On fait pas, on ne va pas se retrouver en Allemagne de l'Est. Ça ne sera pas une dictature. Il y a la liberté. Mais l'école, l'instruction publique au Québec doit être augmentée en finances et en priorité. Et il va falloir qu'on donne la chance à l'instruction publique d'offrir la meilleure performance possible. Mais quand on se compare en ce moment dans le monde, nos scores dans les tests aux élèves internationaux...
Très, très bon.
Hein?
Sont quand même relativement bons. En mathématiques, je pense qu'on est dans les meilleurs.
Dans certains domaines, mais si vous prenez les tests depuis 3 ans, on a fait moins bien. En général, il y a des expertises dans lesquelles on fait bien, mais globalement, on est en dessous de la moyenne des performances des pays les plus avancés. Et ça, qu'on le veuille ou non, il y a une dynamique, mondiale qui est prépondérante. On s'en va vers les fonctionnements de l'intelligence. Donc, visser le boulon, ça va être de moins en moins et ça va être de plus en plus la capacité de développer des robots avec la biochimie du cerveau. Et ça, ça se fait par la sueur que tu mets sur le banc d'école, mais par en face, la meilleure qualité des intelligences qu'on va te donner et pour lesquelles on va te motiver. Et pour ça, ça prend des moyens. Et il faut être capable d'expliquer aux gens que la priorité, c'est l'instruction publique de la meilleure qualité possible et d'offrir également dans le public les facettes que le privé a très bien développées, les sports-études, par exemple. Alors, il faut être capable d'en donner pour tous. Et il faut des moyens pour le sport-études. Il faut que les jeunes puissent développer leur cerveau équidistant de leur corps, de leur physique. Et ceux qui ont des douances dans le hockey et ceux qui ont des douances dans les mathématiques ou les sciences, et il faut qu'ils aient, eux aussi, à quelqu'un en face ou un programme en face qui va répondre à leurs aspirations.
Pas niveler vers le bas comme on fait actuellement.
C'est tout l'art. C'est tout l'art des polyvalentes. Hein. Je veux dire, moi, je pourrais donner un exemple bien simple. Je me rappelle quand mon père me racontait que lui, lorsqu'il était au secondaire, à la polyvalente de mon coin de pays, en Outaouais, il avait fait sa technique en même temps en mécanique.
Ouais.
Donc, c'est juste pour dire, en fait, que l'idée même de la polyvalente, comme on l'a conceptualisé au Québec, il a complètement disparu dans les dernières décennies.
J'ai étudié dans une polyvalente et j'ai adoré ça. Pourtant, c'est avec les gymnases, la piscine, les installations. Il y avait des DEP qui se faisaient aussi. On avait des salles de théâtre, tout ça. Et c'est quelque chose que, honnêtement, je m'en cache pas, j'aurais probablement décroché de l'école si ça n'avait pas été des options de faire de l'éducation physique 8 jours sur 9, deux fois par jour. Parce que moi, en tant que personne plus hyperactive un petit peu à l'époque pour le sport et des choses comme ça, rester assis une journée de temps, c'était inhumain pour moi. C'était un carcan. Voilà. Et plusieurs jeunes hommes se trouvent dans la même situation que moi et on n'a rien à leur offrir à part de la médication et... Ce qui est un drame, une surmédication, effectivement.
Définitivement.
Et d'ailleurs, je me permets de faire une transition, parce que je me souviens de votre discours au CNG, puisque vous aviez parlé de que vous étiez quelqu'un qui voulait se présenter contre comme protecteur des citoyens les plus vulnérables, notamment en termes de violence. Et ça, ces enfants-là qui risquent le plus de décrochage, selon moi, c'est les enfants justement qui ont des problèmes avec l'autorité, ils ont des problèmes, sont surmédicamentés, c'est chez eux, il y a des problèmes, la violence, la TPJ ne réussit pas à protéger nos jeunes en ce moment, et c'est un problème. On abandonne nos plus vulnérables en ce moment. Avez-vous quelque chose en tête pour ça? Parce qu'en ce moment, le constat est alarmant.
Le constat est alarmant. Et en plus, bon, moi, je suis un garçon émotif. Et quand vous mentionnez ça, Jonathan et Samuel, les laisser pour compte, je pense aux misérables, je pense à tous ceux qui sont laissés pour compte dans la grande avancée des sociétés qui est une dynamique imparable. Et il faut laisser personne derrière. Et moi, je pense qu'on mesure la qualité d'une société à sa capacité à ne laisser personne derrière. Alors, pour moi, c'est une priorité. Oui, il faut s'occuper des meilleurs. Oui, il faut s'occuper du plus grand nombre. Mais je pense qu'il faut davantage s'occuper de ceux qui sont des laissés pour compte. Et c'est pas... Et souvent, vous savez, il y a le milieu... est défavorisé, soit financièrement, on peut dire, économiquement, soit émotionnellement. Il y a des tares émotionnelles aussi dans des cellules familiales qui génèrent des problèmes. Il faut que... On parlait tout à l'heure de comment réinventer l'école. Un cours de citoyenneté sur qu'est-ce que ça implique de prendre... L'humanisme. Qu'est-ce que ça implique d'être une société qui avance d'un même pas, tout ensemble? On passe notre temps à écouter des films de la grande industrie anglo-saxonne américaine qui met toujours devant celui qui sauve les autres, celui qui laisse personne derrière. Les héros sont tous les mêmes. Ça, ce sont soit les héros de l'amour ou les héros de l'autre, celui qui vient sauver les autres. Eh bien, notre État au Québec, il doit essayer de sauver tout le monde. Il doit laisser personne derrière. Et ça prend des moyens. Comment est-ce qu'on peut s'occuper? Comment est-ce qu'on peut demander à une seule personne en psychoéducation de répondre à une école de 500 élèves?
Non, c'est impossible.
C'est impossible. Alors, cette personne-là va abandonner son poste. Donc, comment on fait ça? Ça prend des moyens. Alors, il ne faut pas avoir peur de mettre des moyens.
Mais comment on va chercher ces moyens-là, M. Vizina? Parce que depuis tout à l'heure, on parle d'investissement énormément et la question se pose quand même. On parle de dépenser de l'argent, d'investir, mais cet argent, on le prend où?
L'indépendance.
Ah, mais ça, c'est vague, j'entends.
Ah, ben je sais pas, quand même, on a une pas pire restante par la péréquation, là, je sais pas, là, on parle quand même de près de 50 milliards de restante par année.
Bon, là, je vais vous faire une confidence, que c'est véritablement la première fois que je le mentionne dans une entrevue comme ça, mais pour gérer le Québec, Jonathan vient d'y faire allusion, la péréquation, pour gérer le Québec, il y a le budget du Québec. Mais il y a aussi le budget des villes. Il y a aussi le budget des MRC. Il y a aussi ce qu'on envoie à Ottawa. Et ça fait 200 milliards en tout. Le budget du Québec, l'année dernière, autour d'un peu plus de 110. Le budget 2020-2021 va être revu totalement, même s'il prévoyait 125, n'est-ce pas? Et
ça a pas mal tout éclaté. Hein, ça, c'est...
Il n'y a plus rien qui tient de ce côté-là. Mais il y a, admettons qu'aujourd'hui, il y a 200 milliards pour gérer le Québec. Alors, la gestion du Québec, elle doit être réinventée au titre de l'ensemble des ressources dont on dispose. Gérer le Québec, ce n'est pas que l'État provincial du Québec qui le fait. C'est aussi l'argent qui va à Ottawa, c'est aussi l'argent qui est à disposition des villes et des municipalités et des autres organisations. Et il y a 200 milliards là. Est-ce qu'on n'est pas capable de faire des priorités pour l'éducation avec 200 milliards de dollars?
Comme vous disiez aussi, avec les traités de libre-échange qu'on va pouvoir signer, on va pouvoir avantager notre économie pour qu'elle performe mieux, des choses comme ça.
Mais c'est clair. Mais demain matin, le votant indécis pour la souveraineté du Québec, il veut savoir jour 1. Ben, écoute, jour 1, M. Tremblay, il y a 200 milliards pour gérer le Québec. Et il y a 200 milliards pour prioriser vos priorités. Pas demander à Ottawa, s'il vous plaît, Ottawa, pourriez-vous nous envoyer des bateaux à la Davie parce que les travailleurs de la Davie appellent leur agent Remax pour vendre leur maison pendant que les gens en Nouvelle-Écosse appellent leurs entrepreneurs pour s'en construire des plus grosses. S'il vous plaît, Ottawa, pourriez-vous...
Est-ce qu'on peut repeinturer le pont de Québec, s'il vous plaît? Ça?
S'il vous plaît, donc, Ottawa, pourriez-vous le pont, pourriez-vous... S'il vous plaît, les transferts fédéraux, avant c'était 50 % de la santé, là, c'est rendu à 25 %. S'il vous plaît, Ottawa, pour... Mais ça va durer combien de temps, ça? Qu'est-ce qui est payant dans le quémandage? D'abord, le quémandage, ça renforce la position d'Ottawa qui dit « c'est moi le patron », n'est-ce pas? Et ça renforce ton statut de servile qui dit ben, « si, c'est moi qui dis s'il vous plaît ». Est-ce qu'on a l'air, nous, de des gens qui ne sont pas capables de prendre 200 milliards pour s'occuper de nous-mêmes? Et 200 milliards, c'est énorme. Alors, dans le cadre du grand chantier que je propose pour la réappropriation de l'espace québécois, qui va être préalable au référendum et qui sera non-partisan, eh bien, il y aura là carte sur table. Il y a 200 milliards. Comment est-ce qu'on voit la gestion du Québec demain? Régionalisée, avec une constitution souple et moderne, jour 1, à l'antithèse de la constitution canadienne, qui est impossible à moderniser parce que ça prend le vote des provinces, des ours polaires, des saumons de l'Atlantique. Sinon, vous ne pouvez pas toucher à l'article 122B. Alors,
vous l'ironisez bien, monsieur. Vous l'ironisez très bien.
Voilà.
C'est carrément ça.
Quand Brian Mulroney essayait de la réformer, elle était moins compliqué à réformer qu'en ce moment. Ça a été empiré avec Jean Chrétien.
Et ça, c'est fantastique, Samuel et Jonathan. Quel bonheur! À quel point nous allons remporter le troisième référendum? J'ai une hâte avouée de ce moment que nous allons gagner. On vit après un quart de millénaire dans l'espace canadien, nous sommes encore les moins développés en moyenne au Canada. Après Meech, après Charlottetown, après des Trudeau qui sont venus nous dire « je mets mon siège en jeu », un vote contre le Québec est un vote pour le changement au Canada. Zéro qu'il y a eu. Zéro de chez zéro. Alors aujourd'hui, où sont
vous êtes généreux, M. Vizna, parce que moi, je dirais même qu'on est dans le négatif.
Alors Samuel, dis-moi, où sont les arguments fédéraux qui vont empêcher la victoire du peuple québécois au prochain référendum? Il n'y en a pas. Ils ont eu toutes les chances. Est-ce que ce n'est pas à nous, maintenant, de nous donner notre chance? Mais voyons, le jour 1 approche.
Je trouve, si vous me le permettez, chers collègues, que ça fait quand même une belle conclusion. Parce que je vois le temps, il nous resterait un 5-10 minutes, M. Vizina. Si vous voulez conclure, vous pouvez faire un speech à nos auditeurs, si vous le voulez, un peu comme vous l'avez fait.
Un discours,
M. Vizina. C'est à vous, la conclusion est votre.
Mais écoutez, d'abord, je veux vous remercier, Samuel et Jonathan. Pour l'opportunité de m'entendre, ça m'honore. Deux, pour l'ambiance que vous avez su créer. Trois, par la pertinence de vos questions. Je suis vraiment honoré d'avoir participé à cet exercice-là qui s'est déroulé dans un climat absolument amical. Maintenant, ce que je veux dire aux jeunes de l'Université Laval, c'est que l'éducation sera gratuite intégralement de la maternelle 4 ans au doctorat. C'est que la loi 101 va s'appliquer au cégep. C'est qu'on va faire du système éducatif au Québec un des plus performants au monde. Et ça, un des plus performants au monde, ce n'est pas antagoniste à une école où il fait bon vivre. Prenez l'exemple de la Finlande. Il n'y a pas de devoirs le soir. Il y a moins d'élèves dans les classes. Il y a beaucoup de récréation. Il y a beaucoup de temps d'études sur place. Puis quand il est 4 heures, les élèves s'en vont courir un peu partout, puis s'amuser, puis se relaxer, parce que demain, ça recommence. Alors, il y a moyen de performer dans des ambiances qui ne sont pas contraignantes, astreignantes et euthanasiantes. Alors, moi, je vous dis il est impossible que le jour 1 de la souveraineté du Québec, on ne soit pas plus riche. Instantanément, le jour 1, on va prendre nos propres décisions. On va avoir 200 milliards pour faire quoi? Pour faire du deuxième et troisième développement dans nos produits de base. N'est-ce pas? En ce moment, on prend l'alu et on l'envoie par bateau et après, on la reçoit dans une voiture qu'on paye 40 000 $. Bon, moi, je vous pose la question, Samuel et Jonathan, pourquoi il n'y a pas de constructeurs automobiles au Québec, et de voitures électriques? Je vous le demande, pourquoi les Chinois ont 11 constructeurs automobiles majeurs? Ils en ont 50. Bon. Mais ils en ont 11 majeurs. Et ils sont en train de négocier leur arrivée en sol nord-américain et en sol européen. Et ça va se faire avant 5 ans. Et qui aura une usine de voitures chinoises chez lui? Ben, il faut que ce soit nous. Il faut que ce soit le Québec. Et puis, cette voiture-là doit être électrique. Et 100% de ses composantes doivent être québécoises.
On est d'accord. Le lithium, on a l'aluminium, on a l'expertise.
On a l'expertise. Alors, deuxième chose. On a perdu Bombardier grâce au nationalisme de la CAQ, n'est-ce pas? On a
bien mesuré. Et du Parti libéral aussi, quand même.
Évidemment. Évidemment, merci. Maintenant qu'on est placé devant la bête, eh ben, on ne va pas la laisser nous piétiner. Il faut absolument trouver un système économique à l'Irlande, à l'irlandaise, qui va faire en sorte que même si les entreprises, vous ne les possédez pas, quand elles sont chez vous, elles ne partent plus. Elles créent des emplois chez vous. Et pour ça, il faut une vraie politique économique. Si tu n'as pas la possession, il faut au moins que tu gardes l'usufruit des emplois et des bienfaits économiques. Il y a au Québec 500, 600 grandes entreprises, des entreprises de plus de 500 employés. Ce n'est pas beaucoup. Il y a 400 000 PME. Il y a un ratio d'à peu près qui défavorise nos petites entreprises. Parce que les petites entreprises, elles vivent aussi grâce aux grandes entreprises qui leur donnent
les chaînes de valeur.
Et bien voilà. Donc, il faut s'assurer de garder nos grandes entreprises. Maintenant, on sait que d'ici 10 ans, les avions court-courrier, ce qu'on appelle les bus transit de l'air, là, le Philadelphie-Baltimore, Boston, New York, n'est-ce pas? Ça va devenir un avion électrique. Le premier avion électrique va voler en 2021. 9 passagers, 750 km d'autonomie. Qu'est-ce qu'on attend pour assurer qu'Hydro-Québec double ses partenariats pour assurer que le prochain avion qui va sortir de chez Bombardier Airbus, ici à Mirabel, va être un petit avion en carbone électrique propulsé par Hydro, une technologie d'Hydro-Québec.
On pourrait même mettre nos ingénieurs d'Hydro-Québec sur le projet.
Où est la volonté politique de la CAQ et son faux nationalisme? Elle n'est pas là. Moi, je vous garantis que lorsque je deviens chef du Parti québécois, Hydro-Québec va se rapprocher de Bombardier et de Pratt & Whitney, qui eux aussi sont déjà en train de planifier un avion tout électrique pour 2022. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde passer le train. Moi, je vous dis, si vous n'avez pas de considération pour vous-même, ne vous attendez pas à ce que les autres en aient pour vous. Et avec moi, comme chef du Parti québécois, je vous garantis que le Québec va reprendre ses lettres de noblesse et qu'Hydro-Québec va voler haut.
Écoutez, M. Vézina, un immense merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation à être sur ce balado. C'est vraiment apprécié. Je crois que nos auditeurs vont se régaler, en tout cas, à écouter ce que vous nous avez dit aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai été passionné de A à Z. Merci beaucoup. Et écoutez, chers auditeurs, j'espère que ce balado vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aimer notre page Facebook. Sinon, vous pouvez toujours aller sur l'agenda.ca. Au revoir.